soirée. Piqué dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Cubu, les coupous, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le manteau. Cubu, les coupous, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et câble les potes, oh là, voilà papa. Et l'idiote, toi donc de la voilà papa. Et dis au bus, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gaffe les potes, oh là voilà papa. Et Mariotte, toi donc de la voilà papa. Et Cristobal, laisse ton ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène. Cubu, hicou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijoux, cailloux, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et des dépotes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut trotte, avec Yana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Hola, hola, voyez-moi ça, comme elle gigote. Hola, hola, on croirait pas qu'elle est vétuste. Tiens, la vlaque qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze, ça, c'est du boulot. Cubu, les coupous, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, les coupous, i-o, i-a. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Didi Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Hello. Ouais.
Il monte les micros.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien à la causerie. On est toujours le dimanche à 22h, 23h sur l'antenne de Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org, un truc comme ça. Et ben, ce soir dans les studios, ben, il y a Louli à la technique.
Oui, bravo.
Bravo.
Bravo, bravo.
Bravo. Alors, à toi.
Louli, il va falloir que tu montes ton micro. Monte ton micro.
C'est lequel, voilà. C'est le monter physiquement ou
oui, physiquement, ouais. Et d'ailleurs,
je vais m'évanouir. Oui.
Amis auditeurs, vous n'êtes pas là, mais si vous aviez une webcam dans le studio ce soir, c'est chaud.
C'est chaud, bref. Les marrons, grave quoi.
Bah, c'est pas parce qu'on est des techniciens qu'on n'a pas le droit d'être sexy.
Grave, attends, mais grave. Et puis on a Fab aussi qui est là.
Ouais, salut.
C'est ça.
C'est moi.
Et puis bon, bah, moi je me présente quand même parce que tout le monde s'en fout. Bah, Jean-Yves, 28 ans.
Toutes tes dents.
Pas tout à fait non plus. Mais enfin, oui, bon, t'en
as emprunté.
J'en ai emprunté à des personnes décédées, bien évidemment. Alors, on va faire peut-être un petit rappel. C'était justement pour vous donner l'adresse mail de la causerie. C'est toujours lacauseriecanu@gmail.com. Et puis ben, quoi d'autre?
Eh ben ça va,
bonsoir Emma.
Ouais,
voilà,
ouais.
C'était
l'idée. Bonsoir Emma, des bisous là où tu es.
Et non, on donnera des nouvelles à la fin parce que moi je suis un peu son parcours et je vous donnerai des nouvelles à la fin.
Ok, on a des news depuis la dernière fois sur
depuis
la place.
Depuis la dernière fois, ouais, ça, okay. Sa progression dans.
D'accord, après le ice cream, il y a autre chose qui se passe.
Oui, oula, des choses encore plus croustillantes. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission.
Moi, je vais juste rappeler vite fait, comme ça, enfin remercier vite fait, pardon, les gens qui nous laissent des gentils messages sur le blog, ça fait vachement plaisir. Oui. Et on rappelle que si vous êtes sur Lyon, les studios sont ouverts, vous pouvez venir nous voir. Juste arriver un tout petit peu avant l'émission, c'est plus pratique. Et, ouais. Et puis voilà, et puis vous pouvez venir discuter avec nous, juste assister à l'émission, voilà. Et puis voilà. J'avais juste envie de rappeler ça parce que j'ai l'impression que les gens ils ont peur et qu'ils croient qu'on les mord.
Mais non, on est gentils. Bon, des fois on aboie un peu derrière les micros, mais sinon on est assez sympa. Hein. En gros, on va dire.
Et ben Louli, en parlant d'abonnés.
Et en maigre surtout. J'aime pas le mot gros.
Oh l'autre.
Et en parlant d'aboyer, Louli, il paraît que t'avais. Enfin, moi, le titre.
J'avais un chien, non?
Non, non, le titre que t'avais donné, c'est Italians Do It Better.
Ouais.
Alors, pourquoi ce titre-là?
Eh ben, parce que en matière de beaucoup de choses, les Italiens sont les meilleurs, hein, j'ai envie de dire. Et en particulier, en ce qui concerne les rapports entre des personnes adultes et les mineurs, c'est un peu encore plus notre spécialité, puisqu'on est quand même géographiquement le pays du Vatican.
C'est pour ça.
Okay. C'est méchant ce que je viens de dire.
Je trouve ça assez honnête. Ouais. Mais...
Et j'ai perdu mes notes, donc c'est pas grave.
Tout va bien. Là, il faut qu'on meuble, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors moi, je vends une 206. Non, je déconne, c'est pas vrai, on s'en fout.
Donc du coup, tu vas nous faire un petit tour d'Italie, du côté malsain de ce qui se passe là-bas en ce moment. Quoi.
Ouais, donc on va parler politique, évidemment, parce que
ça touche le milieu politique.
On est à la causerie, quand même. Et j'ai retrouvé mes notes, hein, tout va bien, donc...
Allons-y.
Ça te stresse peu la technique?
Oui, c'est la technique. Non. Alors en gros, je vais reprendre mes esprits.
Allons-y.
Alors, c'est un peu un état des lieux, un état d'esprit plus qu'une chronique. Donc j'espère que je vais être assez rapide. Alors en gros, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Italie? Et c'est intéressant parce que c'est en général ce qui va se passer dans pas très longtemps ici, ou ce qui se passe déjà maintenant, mais on
ne le sait pas vraiment encore. Quoi.
Alors parmi les nombreux scandales de par le monde, depuis octobre en fait, donc en Italie, il y a un scandale un peu comme d'hab, j'ai envie de dire sexuel, politico-sexuel qui a explosé, donc depuis le mois d'octobre à peu près, fin octobre de l'année dernière, de 2013, qui implique des acteurs politiques et d'autres personnalités, mais là je n'ai pas les noms, donc apparemment ce n'est pas des personnalités très intéressantes, mais parmi les acteurs politiques en fait, et parmi les grands industriels, donc il y a ce scandale sexuel qui mêle prostituées, si on peut appeler ça comme ça, mineures, ouais. d'un quartier populaire de Rome, donc de la capitale, qui auraient proposé leurs services sexuels sur Internet, et elles ont eu parmi leurs clients une quarantaine de personnes connues. Parmi ces personnes connues, il y a des grands industriels, et il y en a un en particulier qui est super sympa, parce qu'il est parti se dénoncer tout seul, en fait. Quand le scandale a éclaté, il est parti voir les flics, il a dit, écoutez, vous allez sûrement trouver mon nom dans les interceptions téléphoniques, là, dans les tabulations,
les écoutes.
Ouais, les écoutes. Ouais. Vous allez retrouver mon nom, écoutez, moi j'ai pas fait grand chose, mais bon. Donc ce héros national qui s'est dénoncé tout seul, c'est le mari de Alessandra Mussolini, en français Alessandra Mussolini.
La petite fille.
La petite fille, exactement, de Benito, ce cher
dictateur.
Ce cher dictateur, cher à nos cœurs. Et donc, évidemment, elle, c'est sa femme, enfin, c'est pas elle qui est impliquée dans cette affaire de pédophilie, mais ça compte quand on s'appelle Mussolini, pas tant pour son nom de famille qu'elle revendique et dont elle est super fière, mais parce que elle est impliquée dans tout ce qui est enfance, droit de l'enfant, droit de la famille. C'est un peu l'équivalent, en plus sexy, je dois avouer, mais c'est pas difficile, de Christine Boutin.
Ah ouais.
Sauf qu'elle, elle a du pouvoir politique, elle est sénatrice depuis 2013,
ah oui, ok, d'accord.
Depuis 2012. Avant ça, elle était députée et tout ça. Et en fait, j'ai envie de m'attarder un peu sur elle, même si c'est son mari qui est impliqué, mais c'est important pour comprendre. Alessandra Mussolini, donc petite fille de Benito dictateur, et nièce, enfin sa maman, c'est la sœur de Sophia Loren, l'actrice italienne. Et elle a justement commencé par des photos de charme, des apparitions au cinéma, et elle a même fait un disque. Qui est pourri évidemment, et qui est disponible qu'au Japon, pour dire la qualité artistique du truc, et un peu l'école de censure et d'autocensure, où on peut pas avoir son disque en Italie, genre elle est partie vendre ça à l'étranger pour pas qu'on ait trace un peu, ouais. C'est un peu la honte pour elle, quoi. Mais on est à l'ère d'internet, donc on a accès à tout ça, donc allez voir des chansons à elle, hein, je crois que son album s'appelle Love ou Amore, enfin l'amour en italien, c'est très intéressant. Et Donc, en fait, elle a commencé sa carrière très tôt par la télévision, les films et la musique. Donc, c'est une, ce qu'on appelle une showgirl en Italie. Mm-hmm. En gros, quand tu fais, quand t'as participé à une émission de télé ou t'as fait voir un peu tes nénés, on te donne le
grade.
En tant qu'intermittent du spectacle, en fait, on va donner le nom showgirl.
D'accord.
On peut jeter un peu tout et n'importe quoi dans cette catégorie. Donc, elle a commencé comme ça et... comme ça marchait pas trop en fait, et vu qu'elle a un nom de famille et qu'avec un nom de famille, avec un prestige en fait, moins on a de compétences, plus on a des chances en politique italienne, surtout quand on s'appelle Mussolini. Et d'ailleurs c'est bizarre parce qu'en Italie, quand on a des compétences professionnelles, on va vous proposer un stage renouvelable sur 10 ans payé 200 euros par mois, alors que quand on n'en a pas, on vous donne un ministère. pour peu qu'on fasse voir ses nénés ou qu'on sache passer sur le bureau. Mais homme moi, ou femme ou labrador. Hein.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que je ne savais pas que Mussolini était encore un nom qui t'ouvrait des portes politiques en Italie à ce point-là. Parce que je veux dire, enfin.
Il y a une immense nostalgie, une immense affection
Il y a une grosse partie de la population en fait, qui soutient encore les idées de Mussolini. Quoi.
Et c'est tragique, mais surtout chez les jeunes aussi.
C'est
arrivé de bosser en tant que barman et d'avoir des clients qui m'amenaient comme cadeau, comme pour boire en fait des effigies, des briquets, des machins avec sa tête dessus.
Ah ouais.
Enfin, de tout leur cœur.
Oui, c'était totalement.
Lui, t'es mon barman préféré, tiens.
Mais... Ouais.
des briquets avec des citations plus ou moins de lui d'ailleurs.
Remarque, c'est ce qu'on voit aussi pas mal en Allemagne avec les néo-nazis qui sont des gens très jeunes en général.
Ouais. Mais comme Mussolini, c'est pas Hitler justement, les gens sont encore moins complexés. Et,
c'est ça en fait, je crois.
Et ça fait un petit peu peur, mais c'est vraiment les gros clichés où on dit oui, mais de toute façon, il a pas fait que des mauvaises choses, il a instauré des choses intéressantes.
Oui, bien sûr.
Dites-moi lesquelles, à part, je sais pas, il y a eu des génocides. Et,
c'est ça. Oui.
Et rien que ça, ça suffit d'ailleurs. Enfin bref, donc notre amie Alessandra Mussolini, on voit à peu près qui c'est maintenant. Donc elle est déléguée à tout ce qui est affaires familiales, tout ça. Elle manifeste notamment contre le mariage homosexuel, évidemment. Elle a manifesté contre le mariage homosexuel en France, alors que ça ne la regarde pas du tout. Mais pour prévenir, en fait, avant de guérir,
elle
a dit nous, on ne veut pas de ça chez nous. pas des PD non plus. Elle a participé à énormément d'émissions de télé aussi récemment, pas que à ses débuts. On la trouve, en fait, elle peut faire ce qu'elle veut, elle fait de la politique. Vous la trouvez au Sénat, vous la trouvez à la Chambre basse du Parlement. Vous la trouvez en tant que jurée dans des émissions de télé-réalité. Vous allez la trouver dans des talk-shows. Elle va donner son avis, mais ça peut être sur la dernière paire de chaussures de Kim Kardashian ou sur un truc historique important. Elle est vraiment partout, quoi.
Ah oui, elle est hyper polyvalente, quoi.
Elle est super polyvalente.
Elle nourrit en tout cas la télé aussi.
Voilà, enfin,
exactement. Ils s'auto-nourrissent, quoi.
Et
au final.
Télé, on sait qu'elle est friande de ce genre de
personnages.
Et une fois, elle a même fait arrêter un pédophile en direct à la télé, quoi.
Ah ouais, okay.
Il y avait un présumé pédophile qui témoignait de son affection. Après, on ne sait pas s'il est passé à l'acte ou pas. Mais il témoignait de son affection et tout ça, dans un talk show tout pourri d'ailleurs, comme d'hab. Mais son intervention, elle a dit y a des flics présents dans la salle pour la sécurité du déroulement de l'émission. Je vais en profiter pour dénoncer le gars. Elle a fait arrêter un gars en direct comme ça.
Et du coup, je me demande, elle a fait arrêter son mari aussi? Parce que, a priori...
Justement. Alors, comme madame revendique le statut de la famille, c'est un homme, femme, un mari, elle a dit, moi, jamais de la vie, je chasserai mon mari de la maison. Elle est partie vivre chez sa maman avec ses enfants. Donc c'est elle qui est partie, c'est pas elle n'a pas mis le coup de pied aux fesses pour le virer, malgré justement le caractère qu'on lui connaît. C'est elle qui avait notamment en direct, toujours à la télé, insulté un député. Alors je sais pas s'il est trans ou pas, en tout cas il était masculin, maintenant c'est une jolie dame, Vladimir Luxuria, qui a été arrêté il y a pas très longtemps. Il est ancien député. De toute façon, ils viennent au Parlement. En fait. Oui. C'est toujours les mêmes. Ancien député communiste, italienne, qui a été arrêté au dernier jeu de Sochi parce qu'elle avait un éventail aux couleurs de.
Ça me dit quelque chose.
Du drapeau gay. Donc c'est une ancienne députée trans qui a été arrêtée. Enfin, ils l'ont arrêtée pendant une journée. Parce qu'il y a eu pas mal de pression. Et il lui avait dit, Mussolini avait dit à Luxuria à la télé, vaut mieux être fasciste que PD.
Ah, c'est grand, ça
pose, ça
tonnerre d'applaudissements, ça a pas fait, ah oui bah oui, ça a pas fait scandale ni rien, les gens étaient d'accord avec ça, vaut mieux être fasciste que autre chose de toute façon. Et c'est de plus en plus la mode apparemment.
Ouais.
Donc quoi d'autre, bah ce scandale qui mêle son propre mari, justement, alors on est le chantre de la famille modèle et exemplaire, on dénonce un peu à la manière de Occupy pédophilia, on fait l'amalgame entre homosexualité ou sexualité non hétéronormée avec la pédophilie, mais en attendant, papa, il est derrière, c'est sur un site, mais tellement cheap, en plus, c'est genre Kijiji, je sais pas si vous vous souvenez de Kijiji, le site Kijiji fourni par je sais plus quel machin, là, non, où on pouvait... Alors, on pouvait acheter des trucs, c'était avant eBay, quoi.
D'accord.
Il y a 15 ans, c'était un site où on mettait des annonces de tout n'importe quoi. Et ben, il y a deux gamines de 14 et 16 ans. Donc apparemment, d'après l'enquête qui est encore en cours et qui prendra des plombes parce que ça implique des gens trop importants, bien, comme d'habitude, d'après l'enquête, elles ont 14 et 16 ans et elles ont été poussées un peu par la famille.
Là, ça devient glauque.
Ouais, ça devient glauque. Et c'est un peu un souci d'un pays qui va... pas bien, mais du tout, si on avait des doutes, c'est que d'avoir des parents qui se disent « Ouais, mais je vais quand même laisser le personnage, je vais quand même prostituer mon enfant, quoi, ouais. Parce que j'ai faim, il faut que je fasse quelque chose. Mmh. » Bon, il y a d'autres solutions, hein.
Ça va, voilà. Te stresse, ouais. Pas, tout va bien.
C'est parce que je vois pas depuis là, quoi. Voilà, je vois mieux le truc.
Ils cherchent l'heure, en fait.
Ils cherchaient l'heure, ouais.
Voilà, je cherchais l'heure. Donc, bah, c'est un autre souci aussi, hein. L'Italie est un pays où les gens ont faim réellement. Ouais. On en parlait il y a pas longtemps des personnes âgées qui fouillaient dans les poubelles. Il y a, voilà, super démocratie où on en est, quoi. Soit on fouille dans les poubelles, soit on prostitue ses enfants. Oui. Et ça me rappelle un peu les livres d'histoire, les cours d'histoire qu'on avait quand ils parlaient du maoïsme et tout ça. Ils disaient, oui, il y avait des témoignages de paysans qui disaient, on s'échangeait les enfants avec les voisins pour les bouffer, pour savoir qui va bouffer qui. C'est assez tragique. Et on a l'impression que c'est tellement loin derrière nous tout ça, mais on est en plein dedans.
Oui.
On est dans des scandales. Alors, sauf que maintenant, le scandale sexuel, c'est bien, ça fait vendre des journaux, ça fait passer à la télé. Et quand on est de droite et qu'en plus on a un scandale sexuel sur le dos, eh ben, ça fait proche du peuple, quoi. Les gens sont là. Et en Italie comme ailleurs, les gens disent oui, mais Berlusconi, moi, je continuerai de voter pour lui, peu importe ce qu'il fait, parce qu'il est fier de ce qu'il fait. Au moins, lui, il ment pas.
Ouais, je crois que c'est ça qui est quand même le plus intéressant. Enfin, c'est que finalement, on se dit, il y a quelques années en arrière, ça aurait tué la carrière politique de n'importe quelle personne, ou même la carrière tout court, un grand dirigeant ou des trucs comme ça. Et aujourd'hui, en fait, les gens, ils se disent, ah, mais il est transgressif. Et moi, c'est ça qui est terrible. Ouais.
C'est transgression. Glamour.
Et oui, et la transgression, elle s'est placée sur des trucs où tu dis,
oui, c'est ça. Attends, et puis quand tu vois la transgression dont on parle, ouais, bon.
Ouais, alors pourtant, pour être très clair, moi, je suis pas un père la morale, loin de là.
Ouais.
Mais je me dis, quand on trouve transgressif le fait de faire appel à des prostituées mineures et a priori vraiment mineures, enfin 14 ans, moi c'est pas de la transgression là, enfin, à un moment donné les gens faut qu'ils redescendent sur terre, c'est juste c'est un rapport de domination par l'argent, c'est de la pédophilie, et à un moment donné ça ne c'est pas un truc fun qui dit ouais mais finalement il est comme nous, quoi, enfin ça, je trouve
oui,
c'est,
oui, alors,
c'est super, mais je trouve ça super bizarre cette réaction, en
lui,
fait
lui il est honnête, hein, il a dit moi j'ai pas mis les doigts, j'ai pas touché. On avait juste rendez-vous. Alors il y a eu des échanges d'SMS machin, ouais. dont on imagine le contenu. Il a dit oui, mais c'était juste, on a juste pris rendez-vous, on n'a pas consommé, oui, pas encore apparemment. Et pour reprendre un peu l'idée de, il y a pas très longtemps en fait, on parlait des fameuses soirées Bunga Bunga,
oui,
de Berlusconi. C'est un peu le même principe, hein. C'est des jeunes filles, ouais, qui sont invitées dans une de ces résidences de luxe, soit dans le nord, soit dans le sud, en Sardaigne de l'Italie. C'est des soirées à base de mineurs où, pour se défendre, lui il dit non, mais c'est pas vrai. Enfin, peu importe l'âge qu'elles ont, parce que nous on fait des soirées déguisées, c'est du burlesque. C'est pas des partouzes, non.
En fait, c'est les gens
de gauche.
Gras,
c'est les gens de gauche qui font des partouzes.
Oui, d'accord.
Et qui,
oui,
bouffent des enfants.
Ouais.
Eux, ils font des soirées burlesques, donc tu t'habilles, tu déguises et tout. Et ben, pour faire le parallèle avec les soirées Bunga Bunga, dont les procès sont encore en cours, hein, je sais pas si vous avez entendu parler de. Ici, je connais pas trop l'affaire Zaya, mais c'est à peu près ça, quoi.
C'est le principe. Ouais. C'est...
Sauf que c'était des footballeurs, c'est ça, Zaya.
Ouais, c'est ça. Ouais,
j'allais dire nous, parce que genre communauté, je représente. En Italie, c'est plus les politiques avec une jeune fille qui s'appelle Ruby. Donc,
ah oui,
son,
oui le fameux Ruby Gate.
Ruby Brodecker, elle s'appelle, c'est son nom de scène. Ruby Rubacquari. D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle faisait des soirées dans les discothèques et tout. Donc, t'as accès à la notoriété, peu importe ce que t'as fait. Enfin, plus c'est dégueu, plus tu vas être connu. Je crois qu'elle a même fait un disque. Enfin, il y a plusieurs jeunes filles comme ça. Tropicale, on va dire, parce que elle est marocaine, par exemple, cette Ruby. Et en fait, elle avait participé à des soirées Bunga Bunga quand elle avait 14 ans. Elle a été arrêtée parce qu'elle a essayé de voler un bracelet à 3000 euros. Donc la fille, elle n'est pas très nette non plus. Elle avait été arrêtée par la police pendant un contrôle d'identité. C'est arrivé aux oreilles de Berlusconi qui était au pouvoir à l'époque. Donc on se pose même pas la question de savoir comment il fait pour savoir qu'une gamine a été arrêtée à l'autre bout de l'Italie. Comment il fait pour savoir? Il a su ça, il est intervenu pour la faire libérer immédiatement. Et quand ce scandale-là a commencé à éclater, il a dit, c'est parce que je pensais que c'est la petite fille de Moubarak.
Non, sérieux?
Je vous jure, c'était
incroyable.
Dit, moi, je l'ai fait libérer, je le connaissais pas, mais je pensais que c'était la petite fille de Moubarak. C'est pas parce que j'ai couché avec, c'est parce que je voulais éviter un incident diplomatique.
En plus, c'est énorme à trois niveaux, quoi. C'est déjà le premier niveau, tu sais que le mec, il sert de prostituée mineure.
Ouais.
Ensuite, il organise ces soirées Bunga Bunga, mais qui n'étaient pas que des soirées parties fines. C'est qu'en plus, derrière, il y avait des enjeux politiques, parce qu'il n'invitait pas n'importe qui. Il mouillait des politiques, parce qu'il savait que de toute façon, ce genre de scandale allait leur coller au basque.
Et voilà. Aussi.
Et surtout, le troisième truc, c'est que le mec, en fait, même si ça avait été la petite fille de Moubarak, on trouve normal que un président du Conseil, je crois que c'est comme ça qu'on dit en Italie,
Premier ministre,
puisse dire, ah bah tiens, excusez-moi, mais vous libérez telle personne parce que c'est la copine à mon pote et faites pas chier. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est hallucinant de se dire, y a pas d'intervention, ça choque pas, pas vraiment, quoi, en fait.
Ben moi, au final, j'ai l'impression que c'est une certaine élite qui, au final, est de plus en plus à l'aise et décomplexée, c'est-à-dire et qui est dans une domination, parce que pour moi, en tout cas, dans toute cette chose-là, moi, j'y vois un rapport de domination constante, quoi. De domination sur les enfants, de domination sur des personnes qui seraient d'origine étrangère, etc.
Déjà,
parce qu'il y a tout
c'est
ça.
C'est extrêmement raciste, hein. Déjà, le nom des soirées Bunga Bunga, c'est comme Buena Buena.
C'est ça, non, mais je trouve que c'est impressionnant, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que, les gros mâles dominants, hétéronormés, etc., et qui sont bourgeois, qui eux réellement sont bourgeois, ont du pognon, en fait, ils sont vraiment de plus en plus à l'aise. Et à côté de ça, on continue d'enfermer pour quelqu'un qui va voler un truc à bouffer, quelqu'un qui va...
Chose qui arrive en ce moment en Italie. Alors, il y a eu une vague d'arrestations de personnes âgées qui vont voler, ou de mères de famille qui vont voler dans les supermarchés.
C'est ça.
Je vous conseille juste de lire ou d'aller voir si je joue ça au théâtre. Faut pas payer de Dario Fo.
Ouais.
Je vous conseille juste au moins la lecture, si ce n'est d'aller voir ça au théâtre. C'est très intéressant.
Moi, juste avant qu'on lance de la musique, je voulais juste te dire, on voit de toute façon ce que tu disais, l'impunité. Tu la vois, y compris dans les interviews. Là, il y a Christine Boutin qui a donné une interview dans le magazine Charles, qui est un magazine de politique plutôt classée à droite, on va dire ça comme ça, et elle a fait une interview où, en gros, je vais pas revenir sur le fait qu'elle a dit que l'homosexualité était une abomination, parce que c'est ce qu'elle pense, mais ce qui était intéressant, c'était que ça a caché la vraie partie intéressante de l'interview, qui était son rapport à l'affaire DSK. Et en fait, pour Christine Boutin, c'est pas normal qu'on ait emmerdé DSK.
Non.
Elle le dit clairement, elle dit, mais je ne comprends pas qu'on ait cherché des noises à DSK, je ne comprends pas, en gros, que cet homme qui a tellement... et en fait, moi, ce qui m'emmerde un peu dans cette histoire, c'est que certes, ce qu'elle a dit sur l'homosexualité était gênant, mais on savait très bien ce qu'elle pensait. On n'a pas besoin, je veux dire, Christine Boutin, c'est bien que c'est pas notre amie. Mais là, ça a servi à cacher, en fait, ce qui était la partie intéressante de l'interview, qui était celle où, en gros, elle légitimait le fait que le patron du FMI, s'il veut pouvoir violer une femme de chambre dans un hôtel, on ne voit pas pourquoi on irait le faire chier.
Ouais.
Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est ce rapport au pouvoir, ce rapport à cette classe dominante qui méprise totalement les petites gens, et en particulier quand elles sont femmes de ménage au Sofitel, quoi.
Et on voit les femmes qui intègrent parfaitement, comme Madame Boutin, la logique hétéro et sexiste quoi.
Enfin, elle-même, elle vaut pas grand-chose.
Elle
revendique ça. Juste deux dernières infos comme ça.
Vas-y.
Berlusconi, quand il se défend par rapport au procès, il accuse les magistrats d'être
bigots. Bien évidemment.
D'être bigots.
Normal.
Pour lui, c'est des réacs parce que il se mêle. C'est des pudiques.
On a le droit de baiser.
Et le mari de Mussolini, c'est pas que le mari de Mussolini, c'est quand même le dirigeant gens de la SNCF italienne.
Ah oui,
donc il n'a pas détail, que quoi. Le prestige du nom de famille,
ah ouais.
il a aussi du pouvoir. Quoi.
Ok.
Et on va essayer de voir si j'arrive à maîtriser la technique.
Yes,
avec, attention,
avec
c'est
le
parti.
Premier morceau.
On va y arriver.
Non, okay. Tu dois pas faire play, monte juste ton poteur.
Bien sûr.
Oui, oui, vas-y.
Oui, Louli. Allez.
1, 2, 3, c'est parti, au revoir.
He's a bottom. Make him try to top, he'll cry. Never even satisfied. It says he's worse upon his grinder. Oh, versatile, yeah, okay. Girl, you know you're super gay. Oh, ass up and pull those pants down.
I heard at one time that he had a gown. Over here, pig. Make my shaft disappear in your rear, pig. Double penetration with you up in here, pig. Are you scared, pig? This goes there, pig. And on your back, well, that's my tongue, pig. Yeah, that's your boy, Gash. Into my twink stash. Keep sucking me. Do it till I'm tucking G. Guess I'm a top, cause ain't nobody fucking me.
And now it's time for a breakdown.
Never gonna bottom, never gonna bottom. Never gonna bottom, never gonna bottom. Never gonna bottom, never gonna bottom. Never gonna bottom. Never gonna bottom.
C'est encore nous, Radio Canu, 102.2. C'est dimanche, 22-23 à la causerie. On vient d'écouter Boys the Bottom avec le groupe de drag queen que j'adore.
Yes.
DWV, Detox, Willam et Vicky Vox. Et j'en profite pour saluer Alice qui est avec nous l'année dernière, j'allais dire. La semaine dernière de nos amis de l'émission Transpédéguine, on n'est pas des cadeaux.
Yes.
Spéciale dédicace à toi, Alice. Voilà.
Putain, ça se fait des casse dédi perso,
oui,
quoi.
Ouais.
Et ben moi j'en profite
parce que
juste.
J'aime trop les meufs.
Je voulais juste dire, si vous avez l'occasion d'aller voir le clip, enfin de voir le clip, etc. Je trouve que
ouais.
c'est une ambiance quoi, c'est vraiment génial quoi.
Vive la culture drag.
Ouais, c'est vrai.
Et moi j'ai juste envie de dire avant de te passer la parole Jean-Yves, que amis auditeurs qui nous écoutez sur les bandes FM de Radio Canu, prévenez vos copains qui n'ont pas Radio Canu en FM que le streaming est planté, donc c'est normal qu'ils nous entendent pas, mais on mettra toute l'émission sur le blog pour qu'ils puissent réécouter cette magnifique émission de ce soir.
D'ailleurs, c'est quoi le blog?
Le blog, c'est blogs au pluriel .radiocanu.org/lacauserie
ou barre oblique.
Ou barre oblique.
Bien évidemment.
Ouais. Eh ben, Jean-Yves,
ah ok, d'accord. Non mais il fallait que je me lance. Ok. Oui. Donc bon, au départ, je voulais faire un truc, puis ensuite, je savais pas trop comment le formuler. Puis je me dis bon, je vais essayer de vous faire un petit billet d'humeur. Parce que bah, depuis la semaine dernière, vous savez certainement que, depuis lundi en tout cas, on a un nouveau gouvernement qui a été nommé.
Ah bon ? C'est pas vrai.
Ouais.
Enfin, moi je dis ça, mais en vrai je le sais pas. Pour le...
Alors dans la vraie vie en fait...
Un peu, ouais, c'est toujours la même merde. Donc,
Mais dans la vraie vie oppressante en fait, il y a eu des élections.
Hors de mon royaume, tu veux dire.
C'est ça. C'est ça.
C'est l'heure de la brioche ou pas alors ?
Pas encore. Pas encore.
Prévenez-moi quand le peuple n'a plus de pain.
Alors, moi la première chose en fait qui m'interrogeait autour de ce changement de gouvernement en fait, bah, c'est les hommes et les femmes politiques qui nous ont expliqué que les municipales c'était un débat local, c'était pas un vote national pour ou contre le gouvernement, non, rien de tout ça. Alors je me dis, soit je dois être quand même assez idiot, hein, vraiment abruti même je dirais, ou pas suffisamment conscient du message passé par les électeurs et les électrices, mais si en fait ce vote était local, en fait pourquoi en fait on a fait ça, on a réagi de manière nationale en changeant de gouvernement. Je m'interroge aussi sur le fait que François Hollande il ait désigné ce gouvernement comme un gouvernement de combat.
Ah, voyez, c'est beau, j'aime bien le...
Moi j'aime beaucoup en fait quand on commence à emmener ce vocabulaire
un peu lexical belliqueux comme ça.
C'est ça, je trouve que tout de suite on sent vers où on va en fait. Alors bon, à première vue comme ça, je me dis bon, je pourrais presque être d'accord en fait sur le fait qu'il faille combattre effectivement, mais encore il faut se demander on combat qui, on combat quoi et comment quoi, enfin. Parce que moi je veux bien me battre, mais il y en a plein d'autres qui veulent aussi se battre, mais pas forcément pour les mêmes objectifs. Alors après il y a des choses en fait qui m'amènent à être certain en fait que ce combat il prendra pas la route que je pourrais espérer en fait.
Tu veux dire que l'ennemi de Hollande c'est pas vraiment la finance ?
Ben non, en fait je crois pas. En
c'est
fait,
pas la pauvreté ou la délinquance ou je sais pas quoi.
Non non plus.
On est pas à Gotham City.
Non, je crois que vous faites fausse route en fait. Et je crois que moi aussi en fait je fais fausse route et de toute façon.
Bah, t'as l'habitude de vivre dans l'erreur. Hein,
c'est ça.
Péché,
moi, de toute façon, oui, je suis grillé. Et en fait, déjà, oui, il faudrait faire confiance à un gouvernement, ce qui n'est déjà pas mon cas. Hein, donc, bon, donc, effectivement, ça fait déjà quelque chose qui fait que je peux pas vraiment croire quand il me dit que c'est un gouvernement de combat. Mais bon. Et puis après, le truc, c'est ce qui me fait vraiment pas penser que ça sera pour nous, c'est Monsieur Gattaz. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais on en a parlé. C'est un gentil monsieur, c'est le patron des patrons, vous savez.
C'est mon poteau.
Voilà, soit tu en parles souvent, Fab. En fait, c'est le patron du MEDEF, le syndicat des patrons français, qui en fait a été le premier le 8 mars dans le Figaro. Là encore, hein. Lier tout ce qui se dit et tout ce qui se fait dans les lieux où ça se fait, vous comprenez pas mal de choses, et qui dans le Figaro disait qu'on a besoin d'un gouvernement de combat.
Ah donc, tiens, c'est pas la même chose que Hollande ?
Que Hollande, bah ah, tiens, mais... c'est ah, incroyable ouais. En fait. Alors, moi ce que...
Ils ont peut-être lu les mêmes livres.
Hein. Bah, c'est peut-être ça en fait. Et moi ce que je me disais, c'est qu'en fait, venant de Gattaz, qui est quand même un peu notre ennemi, hein, quand même en tant que chômeur, travailleur, travailleuse ou autre en fait, et en fait c'est qu'on sait que son combat à lui en fait il se fera sur notre dos, sur un peu notre sueur, sur notre labeur, sur notre travail en fait. Donc je me suis dit bon, c'est bizarre quand même, il prend du vocabulaire du patronat en fait. Et alors pour certains ça peut être, encore une fois, hein, ça peut être un détail que Pierre Gattaz ait dit ça et que Hollande le dise. Après ça, oui, ça peut en être un, mais après comme on dit souvent ici, c'est qu'il faut toujours être attentif un petit peu aux sources en fait des mots, des expressions qui sont réutilisées, qui ressortent, parce que en fait, c'est pas anodin. Souvent, c'est pas anodin. On le reverra, je pense, dans le futur. Ouais. On a déjà vu que, de toute façon, ce gouvernement n'était pas vraiment de gauche.
Ça relève même de la stratégie militaire, hein, carrément. Enfin, c'est même on peut même remonter au prince de Machiavel. Le matraquage, comme ça, d'un concept.
Oui.
Ouais. Genre, oui, ouais, voilà, c'est bon, stop. Je vais rester là, en fait. Je vais pas m'enfoncer. Bon. C'est assez brillant.
Oui,
je trouve.
C'était brillant. Bravo. Non, mais clairement.
Bravo à moi.
Alors, attends, je vais essayer de m'y retrouver. Et alors, ce que je me disais, c'est qu'en fait, donc c'est comme si Hollande avait repris un peu le vocabulaire du patron des patrons. Et là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on entendrait, en fait, si un gouvernement, qui plus est, soi-disant de gauche, reprenait en fait des termes dits par la CGT, qui est un syndicat, ou la CNT, hein, qui est un syndicat aussi anarcho-syndicaliste. Et en fait, bah, je pense que ça foutrait le bordel, en fait. Et là, alors que le président reprend du vocabulaire de patron, bah, ça choque personne. Bon.
Sauf nous.
En fait,
c'est parce qu'on est jaloux, on est des sales pauvres. C'est parce qu'on veut pas d'argent qu'on en a pas. On n'aime pas assez l'argent.
Ça doit être ça, en fait, ouais. Je pense. Et après, bon, alors après, Gattaz, et peut-être même avant lui, en fait, il y a un autre truc qui m'a interrogé sur la nature de ce combat-là, de ce gouvernement de combat, qui répondait en fait à cette interrogation. En fait, c'est la nomination du premier flic de France au poste de premier sinistre. Premier ministre, pardon, de France, en fait. Et lorsqu'on connaît quand même l'amour que Manuel Valls a pour la patrie, son amour de l'ordre, toujours avec un air assez autoritaire, qui a dit fascisant ? Oui, bon, peut-être aussi un peu fascisant.
Mais sexy
parce que de gauche.
Et parce qu'il est de gauche, déjà, donc il est gentil. Déjà, il est de gauche, il est gentil. Et il faut des hommes de poigne. Nous sommes un peuple d'enfants.
C'est ça.
On a besoin d'être gouvernés.
C'est ça, on a besoin d'une main de... Vous voyez ?
Pauvre France.
C'est ça. Et donc, bon... Alors,
Mais du coup, Valls qui aime bien sa patrie, mais c'est quoi sa patrie ?
Alors ça, c'est déjà Valls, en fait. Moi, je voulais un peu essayer de voir un peu son parcours et tout, parce que moi, j'ai entendu que dans sa famille, il y avait des liens peut-être supposés avec la bande à Franco. Et c'est assez bizarre, en fait. Il y a plein d'informations assez contradictoires. Certains disent qu'il est né en France, quand son père est venu faire une expo à Paris. Et puis d'autres disent qu'en fait, non, il est né à Barcelone. Et en fait, Valls, il dit qu'il aurait fui le franquisme, mais il a été naturalisé qu'en 82. Le franquisme, c'est fini en 75.
Ah ouais.
Donc, on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont fui Franco ou est-ce qu'ils ont fui peut-être une éventuelle justice ? Enfin bon,
D'après Franco, en fait.
D'après Franco, en fait.
Ils ont peut-être plus fui l'après Franco que le Franco.
C'était un peu mon idée, mais je ne voudrais pas vexer les adorateurs de M. Valls. Hein. Ce n'est pas du tout mon propos.
Il ne serait pas français ?
Ah ?
Il ne serait pas français, Valls ?
Ah bah d'origine.
Il faut lui demander une quittance de loyer.
Mais je pense une quittance de loyer, clairement, quoi, parce que.
Mais c'est intéressant parce que ce qui est marrant, c'est qu'il le met de plus en plus en avant, ça, le fait qu'il est naturalisé et que ça lui donne encore plus le droit d'aimer cette patrie qu'il a recueillie. Mais
ah bah oui.
C'est assez pourri, moi, je trouve, comme positionnement. Enfin, bref.
Ouais, ben ça me rappelle un peu des fois certaines personnes qui se convertissent et qui sont encore plus radicales que la radicale. Ouais. C'est toujours assez drôle à observer.
Non, mais ça revient presque à dire moi j'ai le droit d'être nationaliste.
Oui, c'est ça. Parce que quand même, je viens pas d'ici, donc j'ai le droit d'être facho.
C'est un peu minable.
Ah, je vais peut-être y penser.
Tu vas l'oublier. T'as une carrière devant toi.
Bah, en n'ayant aucun papier français, je devrais me reconvertir.
Et alors, bon, je voulais quand même un peu rappeler aussi la politique de Valls, hein, parce que bon, c'est pas juste du délit de sale gueule, hein, pas du tout. Hein. Enfin, c'est pas du délit de sale gueule du tout, même. C'est quand même sa politique migratoire, comme ils aiment appeler ça. Moi, j'appellerais ça plutôt une politique d'exclusion et d'expulsion. Quand même digne des plus grands, hein, parce que enfin, je pense qu'il a fait quand même aussi bien, voire mieux que la droite. Et je pense que là aussi, peut-être qu'on pourrait l'applaudir.
Ah, c'est l'école, non. Si, non. Moi j'allais l'applaudir. Moi. C'est l'école Sarko.
C'est ça.
Il n'est jamais parti, en fait.
C'est un peu
on,
ça.
On sent encore son parfum.
C'est ça. Et donc, ça donne quand même un peu sa vision de gauche, quoi. Donc, il y a du combat de gauche qui va mener. Hein. Après, est-ce qu'on doit aussi rappeler son soutien sans faille aux forces de l'ordre, en fait, même quand celle-ci, elle dégomment des gens avec des flashballs et que ces manifestants et ces manifestantes perdent leurs yeux. Bon, c'est pas grave, c'est un homme de gauche, il va sûrement nous faire plein de bien.
Ouais, je rappellerai juste là la phrase qu'il a eue juste après la manifestation contre Notre-Dame-des-Landes, où deux de nos camarades ont perdu un œil à coup de flashball, où il a dit « Oh, les forces de l'ordre ont fait leur travail », ce qui sous-entendait, il n'y a pas ce qui est d'enquête de police, des polices, ni d'enquête judiciaire. C'est génial de la part...
Ne vous inquiétez pas, ils s'occupent de tout. C'est
bon, de savoir que le travail des flics, c'est donc de péter des yeux aux gens, quoi.
C'est un peu ça, en fait, de mater la rébellion. Et puis après, c'est aussi quand on constate en fait la politique qu'a mené ce gouvernement jusque-là, attisant la haine, lui laissant un boulevard même à l'occasion du mariage pour toutes et tous. Ils sont responsables de la NIC, dont on a déjà parlé ici. C'est l'accord national interprofessionnel qui va être encore plus de précarité pour tout le monde.
Bah, qui est hein, parce qu'il est signé. Il est voté.
Qui sont aussi des meneurs de guerre hein, quand même à leur palmarès. On a le Mali, la Centrafrique. Donc on est vraiment en droit de se demander encore plus sérieusement quelle gueule va prendre ce combat, quoi. Hein, parce que moi ça me fait presque un peu peur. Donc rappelons-nous aussi de la réforme ou plutôt de la régression des droits au chômage qui est en ce moment et d'ailleurs il y a des manifs la semaine prochaine pour essayer de montrer notre opposition à ça. Il y a aussi pacte de responsabilité là qu'ils veulent faire signer avec les patrons.
Tu parles.
Pacte de responsabilité c'est
quoi hein ? Ils sont responsables de quoi ?
Rien en fait. On va leur filer 50 milliards ou 30 milliards d'allègements. Pour aucune garantie, en fait.
C'est même encore plus pourri que ça, c'est que, et là j'applaudis dès demain la CFDT, un grand syndicat de combat, qui a quand même signé avec les patrons un engagement qui dit on vous enlève des ce qu'ils appellent des charges, mais qui ne sont que des cotisations sociales pour alléger le coût du travail, blablabla. Et promettez-nous que sous 7 ans, vous ferez des négociations pour... Alors, la CFDT dit non, c'est pas 7 ans, c'est pas vrai, parce qu'on a dit serait des négociations par branche, sauf que le patronat a dit « Ok, mais on reviendra qu'au moment des négociations pluriannuelles. » Or, si vous regardez, il y a certaines branches où elles sont dans 7 ans, les prochaines. Donc, c'est génial, quoi. C'est bien, vas-y, je t'enlève des cotisations et démerde tout.
Enfin, moi, ce que je propose à ce genre de syndicaliste, en fait, c'est peut-être d'écrire au Père Noël. Je me dis.
Ou de commencer à croire en Dieu.
Oui, ça reviendra au même, en fait. Et aussi, alors, ce que je voulais aussi peut-être rappeler, parce que peut-être que ça, c'est pas arrivé aux oreilles de certains. Peut-être, Louis, que dans ton royaume et dans ton pays, tu n'en as pas entendu parler.
À Louliland.
C'est les dernières déclarations, de Pascal Lamy. C'est un ancien de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Qui est donc très très libéral hein.
Et membre du Parti socialiste.
Socialiste, un ami très proche de François Hollande, qui déclarait en gros le 2 avril que vu le chômage, il faudrait ouvrir des emplois payés sous le SMIC.
Alors, l'école allemande.
C'est ça.
J'ai pas dit de bêtises.
C'est ça. Et alors, je pouvais pas m'empêcher de partager avec vous un extrait de ce qu'il a dit. Je cite, je connais des gamins de 15 ans dont les parents n'ont jamais eu de boulot. Pour moi, c'est le signe d'une grande graine. Une société où ceci peut se produire sans qu'il y ait la révolution, c'est vraiment inquiétant, s'indigne-t-il. Avant d'ajouter, un petit boulot, c'est mieux que pas de boulot. Alors déjà, bon, moi je me demande comment qu'un mec qui est à l'OMC, en fait, il arrive à connaître des pauvres. Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir.
Il les croise dans les soirées italiennes dont parlait Louis.
C'est ça. Sous la table.
C'est ça. Mais le problème, c'est que
en train de servir le homard.
Ouais, mais je suis même pas sûr qu'il leur parle, quoi. Enfin bon. Donc c'est toujours très drôle quand même. Et puis, il est étonné qu'il n'y ait pas de révolution. Mais il devrait peut-être demander à ses copains socialistes qu'ils arrêtent alors de matraquer les personnes qui se rebellent pour laisser la révolution
là
se faire.
Alors. Le champ lexical qu'il utilise, foutage de gueule, il dit. Comment ça se fait que vous ne fassiez pas la révolution alors que vous n'avez pas de petit boulot ? Vous êtes. Faites quoi de vos journées ?
C'est ça.
Ouais, mais c'est ça. Il y a un côté.
Il s'inquiète pour le peuple, en
ouais,
fait.
Mais il y a un côté extrêmement pédant et extrêmement paternaliste dans la façon dont il amène les choses. Mais en plus, il y a un côté provocateur. Parce que moi, je suis persuadé que cette phrase, elle est volontairement provocatrice pour dire voyez-vous, les forces. En gros, c'était voyez-vous, les forces de comme ils disent, d'extrême gauche, d'ultra gauche, je ne sais pas comment ils en voient, voyez-vous, vous pesez rien, quoi. Parce que la preuve, c'est qu'il n'y a même pas de révolution, quoi. Enfin, voilà.
Mais moi je pense effectivement que, enfin, que c'est ce genre de déclaration, même si le mec il est pas au gouvernement, elles arrivent pas par hasard, quoi. Elles datent de...
elles datent il y a 2-3 aussi, hein, c'est d'où tu travailles pas.
C'est ça. Donc elle date d'il y a 2-3 jours, hein, donc effectivement, enfin, elle est très fraîche après un remaniement de gouvernement, etc. Pour une nouvelle politique de combat, etc. Donc je pense qu'on peut réellement se poser des questions. Alors je vais terminer par ça. C'est amis auditeurs, amis auditrices, militants, militantes de gauche, anarchistes, ayant une vision émancipatrice et solidaire de la vie. Il faut qu'on se remonte les manches. Il faut qu'on arrête d'être des gentils tout le temps, à être dans la docilité. Parce que oui, en face, ils veulent faire croire que dès que tu es contre eux, t'es un sale terroriste ou t'es un sale vilain qui est pas pour le bien de tout le monde.
Voire une feignasse.
Et ben, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête d'être dans ce consensus mou parce qu'on aurait un gouvernement de gauche et qu'il faudrait, il faut leur laisser le temps. Non, je crois qu'on a tout à y perdre à leur laisser le temps. Donc, je reprends ma lecture. La politique qu'a menée et que mène et que continuera de mener ce gouvernement n'est qu'une politique libérale, capitaliste, qui ne vise qu'à protéger et qu'à enrichir les plus riches et les possédants. Donc, on ne se trompe pas. On arrête de se taire et on arrête d'être complices. On dénonce leur putain de politique mortifère, antisociale, autoritaire et productrice de cette guerre des pauvres, en fait. Donc, ni UMP, ni PS, ni FN, ceux-là, ils vous apporteront rien. C'est à nous de devenir les maîtres de nos vies et qu'on arrête de laisser toujours ceux-là prendre notre avenir en main. Voilà, c'était mon petit billet d'humeur. Et vu l'heure qu'il est, je pense qu'on va peut-être...
Ouais, je peux juste faire une citation musicale.
Mais vas-y.
Par rapport justement au chantage affectif dont nous gratifie la gauche, en fait. On croit encore que la gauche existe. C'est un chanteur que j'aime beaucoup, Arnaud, chanteur belge, qui dit, entre une bière et une autre, il dit... faut arrêter de croire ce qu'on nous raconte parce que la gauche est devenue la droite et la droite est devenue l'extrême droite.
Ouais, voilà. On est d'accord.
Voilà.
Allez,
petite pause funky town.
Yes.
Le voilà donc, le premier flic de France, Manuel Valls.
Lutter contre l'immigration irrégulière, mais aussi assurer, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, la reconduite à la frontière. La question des campements illicites doit également vous mobiliser. C'est difficile. Et mener une politique d'immigration, vous le savez bien ici, nécessite beaucoup de fermeté. C'est difficile.
Il y a un peu de mots à prononcer. La République et la France.
Yeah.
est toujours à la causerie, toujours sur le Radio Canu, le 102.2. Et on vient de s'écouter Valls in Dub, en référence à notre ancien ministre de l'Intérieur qui est devenu au grand chef Premier ministre de la France. Et c'est du groupe Dub Amix qu'on espère un jour peut-être accueillir à la causerie.
Ouais.
Bah ouais. Là.
Et la série Radio Canu est une radio autogérée, normalement le streaming marche car on est allé le réparer pendant la musique.
Ouais, bah ouais.
Bravo Fab, bravo.
Merci. Ouais, j'ai redémarré un ordinateur, c'était pas non plus.
Mais on a besoin de petits boulots, c'est machin qu'il a dit.
C'est l'ami.
Pas payé
Monsieur
pour
l'ami.
Ça. Je vais garder le crachoir.
Mais oui, vas-y, parce que je crois que tu as un petit livre à nous présenter.
Ouais, je vais garder le crachoir. Et puis, comme vous avez pris plein de temps, je vais me permettre de prendre le temps.
Oh là là.
En fait, moi, je sais pas si vous vous souvenez de Stéphane Hessel qui avait écrit Indignez-vous. Ça avait fait une petite brochure d'une trentaine de pages.
Je vais faire une blague à deux balles. On va laisser tomber. Il a aussi écrit Déjeuner en paix, voilà.
Non, ça, c'est Stéphane Hessel.
Oui, merde. Mais le public un peu raffiné de Radio Canu aura ri.
Il l'a
J'en
fait.
Suis sûr.
Il a fait sa mauvaise blague. Donc, je disais, Stéphane Hessel avait écrit Indignez-vous aux éditions Indigènes, qui était sorti donc sous la forme d'un petit fascicule d'une trentaine de pages pour 2 euros et des brouettes. Et ben, en fait, ces éditions, elles ont décidé de donner la parole à d'autres personnes qu'à Stéphane Hessel. Et en fait, il y a Marianne Henkel, alors il y a des gens qui doivent la connaître peut-être, mais d'autres pas, qui est une personne qui participe au CIRA à Lausanne. CIRA, c'est le Centre International de Recherche Anarchiste, qui a donc écrit, elle aussi, une petite brochure d'une trentaine de pages qui s'appelle « Le refus de parvenir ». Et c'est aussi aux éditions Indigènes. Alors, pour être très clair, Indignez-vous, ce serait un petit peu la version social-démocrate de Le refus de parvenir, sans aucune méchanceté, mais disons que Marianne Henkel, elle a plutôt tendance à ne pas en faire des tonnes en termes d'intellect, mais à en faire des tonnes en termes de « j'ai fait des trucs dans ma vie et j'ai envie de vous raconter comment ça s'est passé ». Alors, le refus de parvenir, ça vient en fait d'une phrase qui vient d'Albert Thierry au départ. Et Albert Thierry, c'est un penseur qui est classé anarchiste. Et il disait, refuser de parvenir, ce n'est ni refuser d'agir, ni refuser de vivre. C'est refuser de vivre et d'agir pour soi et aux fins de soi. En gros, le refus de parvenir, c'est tout sauf capitaliste. Voilà, si vous résumez un petit peu ça, c'est la phrase, c'est ça. Et en fait, Marianne, je vais l'appeler Marianne parce que Henkel, j'arrête du mal à le dire. Marianne, dans son livre, elle va nous tracer son parcours de vie et ses 50 ans de vie passés au CIRA, parce qu'elle a commencé il y a 50 ans maintenant.
Ah oui, donc c'est une militante anarche.
C'est une militante anarche qui est tombée dedans, comme elle dit, quand elle était petite, et elle n'est jamais ressortie. Voilà. Et alors, elle a côtoyé, en plus, elle a eu la chance de côtoyer toute une génération d'anarchistes qui étaient ceux de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Donc elle a côtoyé les anarchistes qui, à l'époque où l'anarchisme était un mouvement extrêmement fort et un mouvement qui était extrêmement émancipateur pour la classe ouvrière. Voilà. Donc elle a côtoyé ce qu'on appellerait maintenant des grands. Voilà. Mais elle dit, en fait, ils se disaient pas que c'était des grands, ils disaient juste que c'était des faisants. C'est-à-dire qu'eux, ils faisaient. Et ils attendaient pas de...
Ça change.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'elle dit, elle a côtoyé des gens qui maintenant sont dans des livres qu'elle classe aussi.
Oui, mais ils cherchaient pas ça, quoi, les gars,
Et voilà, enfin,
en fait. Personne ne cherchait pas ça.
C'est ça, ils cherchaient pas à devenir célèbres ou quoi que ce soit. Eux, ils faisaient les choses. Mais elle dit, ces gens, en fait, ils doivent nous servir à nous parler. Et elle dit à nous parler, mais pas dans le sens de s'approprier la culture pour en faire un outil d'oppression, mais bien dans le sens de s'approprier la culture pour la redistribuer à tous. Vous voyez, déjà la nuance, elle est hyper importante. Et alors, sur la pochette, il y a un truc qui est assez génial, c'est que vous avez un poteau, comme ça, sur la pochette du livre, vous avez d'un côté marqué carrière, pouvoir, pognon, promotion, et de l'autre côté, refus de parvenir. Et en fait, en gros, elle explique que si vous voulez commencer à pouvoir avoir une société révolutionnaire, il faut que vous abandonniez, de fait, la notion de carrière, de pouvoir, de pognon et de promotion. Et une fois que vous avez compris que vous vous débarrassez de ces 4 trucs-là, ça va beaucoup mieux, bah, vous avez tout compris dans la vie. Alors attention, elle n'est pas du tout là pour dire « travailler c'est mal ». Elle est bien consciente que dans une société capitaliste, on est obligé d'y passer. Comme elle dit, c'est une contrainte, on est obligé, donc c'est pas volontaire, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire à un moment donné, soit parce qu'on vous a retiré les dernières aides que vous aviez, soit parce qu'on vous oblige à y aller, parce qu'elle dit il y a des lois qui obligent les gens. Alors elle est suisse en plus, donc elle parle du point de vue de la Suisse, où en Suisse c'est encore plus restrictif, répressif qu'en France, au niveau du chômage, au niveau du retour, il n'y a pas vraiment d'aide type RSA, ça existe, mais c'est hyper compliqué pour les les obtenir. Donc elle dit, il ne s'agit pas de cracher sur les travailleurs. Elle, elle dit au contraire, il s'agit de leur rappeler qu'il faut être fier d'être travailleur. Il faut être fier de connaître un métier et il faut être fier de le maîtriser. Parce que c'est la première étape pour commencer à pouvoir se battre. Elle dit, il ne faut pas avoir honte, par exemple, d'être femme de ménage ou il ne faut pas avoir honte d'être ouvrier. Elle dit non, il faut être fier, c'est un métier et on en a besoin et il n'y a pas de sous-métier. Et elle dit, ça c'est l'étape première, elle est là. Et elle dit, la deuxième étape, c'est leur apprendre à s'organiser. Ben, elle dit, attention, pas à s'organiser dans façon syndicat avec des chefs en haut et puis les en bas. Non, non, c'est organisé façon anarcho-syndicalisme. Donc c'est organisé entre soi. Horizontalité totale, liberté des luttes, et puis c'est la base qui décide de ce qu'elle a besoin et c'est pas la tête. Donc ça, en fait, elle revient énormément sur tout ce qu'elle a fait pendant 50 ans pour être la petite main qui aidait à organiser. Parce qu'en fait, elle se décrit comme une militante. Enfin, elle dit que c'est une militante du livre. Parce qu'en fait, comme en fait, elle s'occupait du CIRA, bah, les gens essayaient de pas trop la mouiller parce que si elle tombait, le CIRA tombait. Donc comme ils voulaient pas trop que ça disparaisse, elle faisait des choses un petit peu en loose day, un petit peu sans trop se mouiller. Puis des fois, comme elle dit, bah, des fois, il faut savoir pas poser de questions. Oui. Parce que des fois, bah, y a des gens, ils vous disent pas les choses, c'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est parce qu'ils veulent pas vous impliquer dans leurs actions où ils savent que c'est illégal et que du coup, bah, si vous pourriez être entraîné avec eux, ils ont pas envie. Donc voilà, donc c'est...
Oui, et peut-être rappeler que l'illégalité, on y est très vite.
Oui, tout à fait.
Mais c'est, je vais dire la même chose.
Mmh, ouais. Mais c'est ce qu'elle rappelle, c'est qu'elle dit, quand on parle de choses illégales, on ne parle pas forcément d'aller poser une bombe.
Ah non, clairement pas. Non.
Elle dit, par exemple, si vous préparez une grève générale, aujourd'hui, vous êtes dans l'illégalité. Je vous rappelle que vous ne devez pas bloquer l'économie. Hein. Ouais. Donc, elle dit, c'est rien que ça, vous êtes déjà...
La sédition aussi, la tentative de sédition, c'est anticonstitutionnel, je crois.
Ouais, ou alors tout simplement faire la grève du zèle. Ouais. C'est-à-dire, vous savez, appliquer au bout du bout tout ce qu'on vous dit de faire, de façon à ce que ça ne marche plus, ça c'est illégal. Ouais. Donc elle dit, bah, on est très vite dans l'illégalité, mais elle dit par contre, il ne faut pas hésiter à le faire. Et en fait, elle raconte sa vie comme ça, et elle entrecroise à sa vie, à ses histoires militantes, des textes de pas forcément de grands, on dirait pas grands penseurs du point de vue universitaire, mais pour moi je trouve que c'est des grands dans le sens où ils ont su apporter des choses. Il y a des gens comme Joe Hill, dont on entend souvent parler, qui était un des membres de l'IWW, l'International Workers, je sais plus comment on dit, Industrial Workers World. Enfin, les travailleurs de l'industrie du monde entier qui vient nous donner des petits par exemple, si, il dit, si la route de la liberté te paraît dure, jonchée de cailloux et d'épines, enfile tes sabots mon pote et tes corps ne te feront plus souffrir. Voilà, Joe Hill, c'était ça, c'était une façon de dire bah allez on y va les gars, voilà, c'était un chanteur, poète et travailleur, parce qu'il était avant tout hobo, comme voilà, vous savez ce qu'est les hobos, c'est ceux qui se déplaçaient de métier en métier aux États-Unis.
Oui. Ils suivaient le travail au final.
Voilà. De la même façon, elle va vous mettre des petits textes comme ça, et par exemple, elle va mettre un texte de Charles Auguste Bontemps. Alors quand on dit comme ça, ça parle un petit peu pour les gens qui connaissent l'anarchisme, mais c'était un gars qui a écrit des livres sur qu'est-ce que c'était que d'avoir une éthique anarchiste en fait. Et il écrit, l'anarchiste aime trop la vie pour s'en interdire les plaisirs et les joies, mais il a trop de sens des valeurs pour ne pas choisir, trop de respect de soi pour ne pas se permettre certains mépris. Le refus de parvenir, c'est le dédain des distinctions sociales, c'est s'exonérer des démarches avilissantes, des promotions de tous ordres qui supposent un compromis avec soi-même et une compromission avec autrui. Voilà. Mmh. Et quand elle met ce petit texte-là, c'est pas par hasard. Elle dit que c'est parce qu'elle, quand elle a lu ce texte pour la première fois, c'est la première fois qu'elle a eu accès à la notion de refus de parvenir. Elle vient d'une formation plutôt universitaire où on lui a appris à être dans la compétition permanente, la meilleure, fallait avoir les meilleures notes, fallait être toujours la première, fallait être toujours plus haut. Et elle dit, ben là, pour la première fois, on lui disait, eh ben non, si tu veux vraiment être utile, il faut revenir à l'horizontalité et donner ton savoir au plus grand nombre, mais pas pour leur donner l'envie d'être une compétition eux-mêmes et rentrer dans... Non, juste pour que le savoir soit partagé. Et elle dit qu'elle, au départ, elle n'est pas du tout une manuelle et qu'elle a appris à le devenir. Parce que voilà, en côtoyant des gens qui savaient faire de la menuiserie, et elle disait, bah, elle va par exemple apprendre la menuiserie et puis elle va donner à l'autre accès au livre. Parce que c'est son but dans le CIRA. Elle rappelle par exemple que dès que quelqu'un a accès au livre et à la connaissance, souvent il se révolte. C'est très très rare que quelqu'un qui ne lit pas, qui lit, n'ait pas envie d'un seul coup de donner son avis. Parce que d'un coup, ça forge l'esprit, on a envie de donner son avis.
Même les gens qui lisent entrevues ou je sais pas quoi, ils donnent leur avis. Non
oui, voilà. Non, mais justement, c'est qu'elle ne fait pas de hiérarchisation. Ouais, elle dit c'est simplement le fait d'avoir accès à la capacité de lire qui donne la légitimité à donner son avis. Alors après, elle dit il vaut mieux lire des trucs autres qu'entrevues. mais voilà. Et elle explique
que. Ça existe
que...
encore d'ailleurs, je sais pas.
Je sais pas du tout.
C'est une de mes références des années 80.
Laissons-la alors dans les années 80.
Et elle dit en fait que le CIRA, ça sert à ça. Alors je rappelle qu'un CIRA, il y en a à Marseille aussi.
Oui, pour ce que j'allais dire.
Qui ne le savait pas, il y en a un qui est à Marseille et qui fait la même fonction que celui qui est à Lausanne.
Oui, que vous pouvez contacter aussi.
Que vous pouvez contacter. Et donc, du coup, voilà. Mais moi,
et soutenir.
Et soutenir, bien sûr.
Mais oui.
Et moi, je vous propose vraiment de lire Le Refus de Parvenir. Je vais vous dire, parce que moi, ça m'a décrassé la tête. Ça vous rappelle un petit peu pourquoi vous avez un peu tout le temps la colère en vous, mais que vous ne savez pas vraiment comment l'exprimer. Et puis elle vous dit, en fait, il faut faire. Voilà, même des petites choses, il faut faire. Elle dit, ça va de coller des affiches à faire une grève générale, ça va de parler avec quelqu'un dans un bar à parler à une assemblée de 2000 personnes. Elle dit, tout ça, c'est faire, en fait. Mais toujours refuser le pouvoir, la prise de pouvoir, mais toujours se remettre en question, mais toujours refuser de prendre une position dominante. Voilà, ça, c'est ce qui est important pour elle. Et je vais finir sur le fait qu'à la fin, elle insiste beaucoup sur son combat féministe, parce qu'à partir des années 60-70, elle s'est beaucoup impliquée dans les combats féministes, et elle dit que de toute façon, aujourd'hui, il est impossible d'obtenir une société émancipatrice et où les gens sont émancipés, si vous n'abolissez pas la barrière liée au rapport patriarcal. Et elle le dit très clairement, et elle explique pourquoi, pour elle, le féminisme est encore aujourd'hui central, et doit être central dans nos luttes, et surtout, pourquoi est-ce que, en tant que femme, parce que c'est une femme, Marianne Henkel, elle a eu du mal parfois à s'imposer, parce qu'on la voyait un petit peu comme la gentille dame qui est là pour faire le café, quoi. Ouais, oui, et elle dit, non, voilà. Mais elle dit quand même qu'elle a croisé des gens, y compris des hommes, qui, au contraire, lui ont dit, fais si tu veux faire. Mais elle raconte quand même que, par exemple, pour le premier track du 1er mai qu'elles avaient écrit tout ensemble, les petites nanas de Lausanne, comme elle dit, ces petites nanas, c'est d'elles, c'est pas de moi. D'accord. Elle dit, elles ont écrit leur track, et puis il y a un monsieur qui est arrivé et qui dit, il est pas mal, mais on va vous aider à l'écrire de façon à ce qu'il soit mieux écrit. Mais il le fait en toute camaraderie. Voilà, mais il le fait en toute camaraderie, quoi.
Bien évidemment.
Mais il se rend pas compte que là, il est en train de remettre un rapport de domination direct. Voilà. Oui. Et donc, voilà, c'est très intéressant. Ça n'a pas vocation du tout à être un livre qui va vous dire comment on fait les choses. C'est plutôt un livre qui va vous donner l'envie de faire. C'est-à-dire que vous allez suivre son parcours de vie. Ouais. Et après, vous vous dites, il n'y a rien d'inutile, quoi, parce qu'elle raconte un peu tout ce qu'elle a fait. Et vous dites, finalement, ça fait avancer les choses. Donc voilà, c'est Le Refus de Parvenir. Donc c'est de Marianne Henkel. C'est aux éditions Indigènes. Ça vaut 3,10 €.
Ah, cool.
Donc c'est vraiment pas cher. Achetez-le ou volez-le. Moi, je m'en fous, mais.
Je pense qu'elle aussi, en fait.
Mais elle le dit, hein. Elle le dit d'ailleurs. Elle dit, achetez-le, volez-le. Enfin voilà. Elle raconte d'ailleurs comment le CIRA récupère des livres. C'est assez marrant.
Et allez-y aussi. Faites pression dans vos médiathèques et tout.
Ouais, voilà.
Je pense que indignez-vous, on doit le trouver dans les médiathèques. Il n'y a pas de raison que je ne le trouve pas.
Et pour moi, c'est vraiment. Moi, je dis franchement, je le dis sans méchanceté, mais c'est vraiment pour moi l'antidote à indignez-vous. Parce qu'indignez-vous, ça poussait à beaucoup palabrer et à faire assez peu, finalement. Alors, on faisait des grandes assemblées, on palabrait beaucoup, puis après, on ne faisait pas. Et elle dit palabrer, c'est bien, c'est utile, il faut le faire, c'est hyper important, mais à un moment donné, il faut faire. Et il faut faire, elle dit, ça va de la cuisine collective pour nourrir les pauvres à la révolution de demain, quoi. Donc c'est ça, tout ça, c'est faire. Donc elle dit, faites avant de. Voilà. Et je vais juste finir sur un tout petit point avant qu'on mette de la musique, parce que j'y tiens, parce que excusez-moi. Ouais, j'ai pris du temps.
Je trouve aussi, quoi.
Les deux qui ont bouffé les trois.
Incroyable.
Il y a plus de petites gens. Hein.
C'est incroyable. Vraiment.
Je voulais juste.
Quelqu'une meuf, là. Il a le crachoir, il ne lâche plus. Vraiment.
Et voilà, un petit coup de
fil. Bienvenue sur RMC Radio.
Attendez, excusez-moi.
Non, c'est quoi? Tarana, les grossettes.
C'est horrible. Alors, je vais pas faire Laurent Ruquier. Voilà. C'est une phrase, en fait, de A.S. Neal, qui était un des fondateurs des écoles en Angleterre, qui était un des fondateurs des écoles horizontales.
Okay.
C'est-à-dire des écoles où on n'apprenait pas comme on apprend dans l'école normale. Mm-hmm. Et qui est un des pères, en fait, des écoles anarchistes. Pour être clair, il dit « Je serais bien déçu si un enfant de Summer Hill devenait Premier ministre, j'aurais l'impression d'avoir échoué. » Et en fait, voilà, ça résume en fait la pensée du refus de parvenir. Voilà, je vous le conseille vraiment, c'est un bon bouquin. Et puis là, on met un peu de musique.
Allez,
on va voir si je sais faire encore.
Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont soit des réalités. Debout, debout, compagnons venus faire. L'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine. Vie capitale, deviens le fossoyeur. Ta vie vaut mieux que d'être une machine. Tout est à tous et à l'aide à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature. Ne produit que par nécessité. Travail facile ou besogne très dur. Nom de valeur quand leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère. L'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire. On le devient, notre philosophie. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières. On rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières. L'Europe fait place à la réalité. Oui, la patrie est une balivère. Un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne. Je ne conspire nul de vos désertés. Debout, debout, compagnons de misère. L'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Que la nitro comme la dynamite soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite. Et de nos mots, hâtons la guérison. Place pour tous au banquet de la vie. Notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie. Le ventre plein, l'homme peut discuter. Debout, debout, compagnons de misère. L'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire. On le devient, notre philosophie. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher.
Parce qu'on est des rebelles dans la rébellion. On a coupé, allez.
Non, mais c'est surtout que c'était fini. Donc c'était Le Triomphe de l'Anarchie par les René Binamé. C'est une vieille, vieille chanson. Hein, je ne me rappelle plus de qui elle est au départ.
Si, de Céline Char- Dion.
De non. De Charles Davray. Voilà, je l'avais noté.
Ah, très bien. C'est, ouais, comme Annie Davray, celle qui fait les perruques.
D'accord. Ok. Et juste vous dire, réécoutez ce titre plusieurs fois et vous comprendrez en fait ce qu'elle voulait dire Marianne quand elle dit bah il sait bien de philosopher mais faut pas trop, au bout d'un moment faut y aller quoi. Ouais. Voilà, des petites brèves
en parlant d'y aller.
Ouais, et ben alors des petites brèves. Alors moi j'en ai deux. Je vous en avais déjà parlé il y a deux semaines je crois, c'est autour des 20 ans enfin du génocide rwandais. Et en fait demain, moi j'ai pas toutes les infos, mais il y aurait un rassemblement en fait, donc place Antonin Poncet. Donc j'ai pas toutes les infos, allez peut-être voir sur Rebellion ou sur Survie www.69.free.fr. Et on peut aussi, peut-être vite fait, juste rappeler que la France a refusé aujourd'hui ou hier d'aller participer à cette commémoration parce qu'elle ne juge inadmissible qu'elle soit mise en cause dans l'exécution de ce génocide. Et si vous suivez un peu l'association Survie, il n'est plus à démontrer que la France a joué un rôle dans ce génocide. Et que voilà, vous voyez, qu'ils soient de gauche ou de droite.
Comme souvent d'ailleurs.
Au final, ils défendent leur État, qui serait infaillible. Et j'ai un autre petit rendez-vous à vous filer. Et alors ça, c'est carrément génial. Enfin, toi aussi un truc à dire. C'est carrément génial. En fait, on a parlé de Pierre Gattaz aujourd'hui. On en a déjà parlé plusieurs fois.
Ah, Pierrot, il est là.
Et Pierrot, il est à Lyon.
Le patron alors, des patrons.
Ouais, il est à Lyon pour le printemps des joyeux entrepreneurs. Yahoo ! L'entrepreneuriat, c'est trop bien.
Non, mais il y a des gens qui ont osé s'appeler les joyeux entrepreneurs.
Oui, bien sûr.
Je disais, ouais, mais c'est ridicule.
Mais si, attends, faut pas déconner.
Les joyeux drills.
Aucun swag.
Du tout.
Non mais j'imagine les mecs qui arrivent sur scène en chantant.
On est les joyeux entrepreneurs. Ça fait très YMCA. Hein,
c'est Charlot.
C'est très étrange.
Et donc, à l'appel du collectif Unitaire 69 avec spectacle en lutte, CGT privé d'emploi et précaire, etc., etc. Il propose de lui faire un petit, un bel accueil. Donc c'est un rassemblement le mardi 8 avril 2014 à partir de 17h45 au double mixte. C'est à Villeurbanne, en fait, c'est tramway T1, direction IUT Fessines, arrêt Gaston-Berger.
C'est à l'entrée de la fac, vous pouvez pas rater.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça peut être sympa. Et en même temps, il rappelle aussi qu'une assemblée générale aura lieu à l'amphi de l'Opéra de Lyon, mercredi 9 à partir de 15h.
C'est cool.
Voilà. Et je crois que Fab, t'avais encore un truc aussi.
Oui, alors c'est pas vraiment une brève. Moi, c'est un appel à filer un petit coup de main. Il y a le CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui est une association qui fait un boulot énorme pour expliquer la dette du tiers-monde, comment on oppresse les gens et tout, et qui, honnêtement, produit des livres d'une qualité assez exceptionnelle. Je vais vous en présenter un ou deux, d'ailleurs, dans les émissions qui viennent, parce que voilà. Et ils ont des soucis financiers. Tout bêtement parce qu'ils ne vivent pas du tout, ils n'ont aucun don, hein, vous imaginez bien. Voilà.
Aucune subvention,
ils n'ont aucune subvention, ils ne vivent que des dons. Voilà. Donc je vous invite à aller sur cadtm.org et à les aider un petit peu. Alors juste pour votre information, pour ceux qui ont les dessous, hein, je ne dis pas ça pour tout le monde, c'est 46€ l'abonnement annuel avec 4 livres compris et un DVD. Voilà. C'est pas pour faire de la promo, c'est juste qu'ils font des documentaires qui mettent sur
des bébés. Oui, ils font des documentaires.
Ils sont extrêmement bons. Ouais. Et ils vous fournissent 4 livres par an qui sont des livres vraiment plutôt bien foutus où on vous explique vraiment de A à Z les tenants et les aboutissants. C'est eux notamment qui ont fait un livre sur la Centrafrique pour expliquer que la France avait beaucoup à y gagner, à y aller et que c'était pas juste pour le plaisir de sauver des populations.
C'est pas de philanthrope.
Voilà. Et ils ont vraiment, ils ont vraiment fait un boulot énorme et où justement ils démontrent qu'il y a des liens beaucoup plus profonds que ce qu'on pensait et que la Centrafrique, elle est justement centrale, comme son nom l'indique, et qu'elle a du coup un intérêt géostratégique important, et que c'est pour ça qu'on y est, et pas du tout au départ comme voilà. Mais je voulais juste le dire parce que c'est important.
Eh ben, c'est dit.
Et juste annoncer les émissions, les émissions à venir.
Pas, en fait.
Non, je m'arrête pas.
Vas-y.
La semaine prochaine, on a une émission spéciale avec sur le site Polyvalence MP, oui. C'est ça, donc c'est Polyvalence le site, mais je crois que l'adresse c'est polyvalencemp.org, si ma mémoire est bonne. Enfin, vous tapez dans votre moteur de recherche.
Certainement meilleur que la nôtre.
Voilà, c'est Tan qu'on aura au téléphone, parce qu'on sera par téléphone et qui va nous parler de son site. Et voilà, je vous invite à aller le voir d'ici.
Oui, allez le voir, parce qu'il
y a comme ça, si vous pouvez nous poser des questions
avant,
ça peut être
sympa. Ouais, on va mettre ça sur le blog. Et la semaine suivante aussi, on aura des artistes normalement avec nous. Ce sera les magiciens du quotidien.
Et c'est
je croyais que t'allais dire les Magic System.
Non, c'est pas les Magic System.
Ça, c'est pas Premier Gaou.
Non. Pas
non, c'est
encore.
Mieux.
Pas
c'est
encore.
C'est beaucoup mieux.
Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va se souhaiter peut-être une bonne semaine.
Vous voulez des nouvelles d'Emma ou
pas? Vas-y, balance vite fait. Vas-y, vas-y.
De toute façon, on a dépassé. Personne ne nous écoute. Bon, Emma, elle est pas là parce qu'elle est partie voter.
Ah.
En fait.
Et elle allait voter où, en fait?
C'est pas tant où le souci, apparemment elle en est pas revenue, on la voit pas, donc elle est partie voter pour le pôle républicain de Jean-Pierre Chevènement. Donc je pense que ça lui prendra du temps pour revenir, parce que c'est loin quand même,
c'est n'importe quoi.
Géographiquement c'est loin d'aller voter pour mais ceci dit, à côté de ça, alors bon, elle vote c'est sa vie privée, elle a écrit elle-même sur son Facebook, hein, je m'en vais, elle a fait un selfie de Loire. Vive Jean-Pierre Chevènement, machin.
C'est pas possible.
Curare mon amour. Et mais alors elle a l'ancienne initiative, sa propre une page en fait. Elle recueille des signatures pour organiser un car pour aller au Puy du Fou. Donc Emma est très occupée, elle a beaucoup de choses à faire.
La pauvre Emma.
C'est pour ça qu'elle n'est pas là ce soir.
Bon, n'empêche,
elle sera là bientôt, Inch'Allah.
Tu profites de son absence, mais en tout cas, on la salue, on espère qu'elle reviendra vite.
Et moi, bien évidemment, tout ce qui est dit est faux.
Totalement faux. Mais honnêtement, j'espère, Emma, si tu nous écoutes, j'espère que tu seras là la semaine prochaine.
Oui,
parce que
et que
ça va
comme prénom masculin, tu as choisi Patrick, j'espère. Oui. Parce que Emma va venir avec un petit truc en plus.
Ok.
Et deux petits trucs en moins.
Et moi, je voulais juste dire avant qu'on se quitte, c'est que le titre qu'on va écouter, c'est un titre du groupe Arcana, qui s'écrit A-R-C-A-N-A et non pas Kenny Arcana.
Oui, s'il vous plaît.
Et le titre, c'est Circonspection. Et alors, moi, ce que je vous propose, c'est on se dit au revoir.
Ouais.
Ensuite, vous vous posez chez vous. Tranquille, avec à boire, un joint ou rien d'ailleurs, et vous écoutez ça, et je pense que vous allez très rapidement rejoindre Morphée. En tout cas, je vous le souhaite.
Ou Jean-Pierre Chevènement,
mais je préférerais Morphée.
Que l'on salue.
Bonne semaine à toutes et à tous, bon courage.
Et oui, Raymond Barre, tu nous manques.
Non plus.